Daf Yud Amud Bet, en bas du Hamoud. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda pense que après Chatzot, on ne fait plus de Bdikat Hametz, même si on n'a pas fait la Bdikat Hametz avant, on ne fait plus après Chatzot, et la Gemara a expliqué que c'est de peur que, en faisant Bdikat Hametz, on risquerait de manger le Hametz qu'on trouve. Et la Gemara s'étonne et demande, Umi Gazar Rabbi Yehuda, Dilma Atelemechal Mine, est-ce que Rabbi Yehuda fait une telle xéra de ne pas faire de Bdikat de peur qu'on ne vienne à manger le Hametz? Ve'atnan, pourtant on enseigne la Mishnah, Mishikara va omer yotzin umotzin shukei Yerushalayim shemeleim kemach vekali shelo birtzon chachamim divrei Rabbi Meir. Donc la Mishnah parle du issur de Hadash. Donc le issur de Hadash, c'est la nouvelle récolte. On n'a pas le droit de la consommer tant qu'on n'a pas apporté, à l'époque du Beit HaMikdash, tant qu'on n'a pas apporté le Korban à Omer. De nos jours, c'est il faut que le jour du Korban à Omer passe, ça veut dire le 16 Nissan en Eretz Israël ou le 17 Nissan en Chutz La'aretz, mais à l'époque c'était jusqu'au moment où on apportait le Korban à Omer. Jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas le droit de consommer la nouvelle récolte, donc c'est le issur de Hadash. Et la Mishnah raconte que à l'époque du Beit HaMikdash, dès que le Korban à Omer était apporté, les gens sortaient et trouvaient déjà les marchés de Yerushalayim qui étaient pleins de farine et de blé grillé, shelo birtzon chachamim, contre la volonté des chachamim d'après Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si immédiatement après le Korban à Omer, il y avait déjà sur le marché, on pouvait trouver de la farine et du kali, du blé grillé, ça veut dire que ils avaient déjà préparé ça avant qu'on apporte le Omer. Donc ça veut dire que ils avaient déjà arracher le blé, on va voir après que on n'a pas le droit de le moissonner avant qu'on moissonne le homer, mais on a le droit de l'arracher. Donc il l'avait déjà arraché avant, il l'avait déjà moulu, il l'avait déjà grillé. Donc tout ça il l'avait fait avant le korban à homer. Et justement c'est pour ça que Rabbi Meir dit que c'était contraire à la volonté des chachamim, parce que les chachamim ne veulent pas que on fasse tout ça, parce qu'on risquerait d'en manger pendant qu'on s'occupe de moudre, etc. Rabbi Yehuda Omer, Birtzon Chachamim Ayosin. Alors que Rabbi Yehuda dit que non, c'était fait avec la volonté des Chachamim, c'était en accord avec les Chachamim, les Chachamim ne s'opposaient pas à ça. Donc c'est-à-dire que lui pense que on ne fait pas de Xéra de peur qu'on mange. Alors comment ça se fait que dans notre Mishnah on a dit que on ne doit pas faire de Bdika de peur qu'il mange? Donc Velo Kagaza Rabbi Yehuda Dilma Atele Michal Mine. Ici dans le cas de Hadash, Rabbi Yehuda n'a pas fait de Xéra de peur qu'on mange le Hadash avant qu'on apporte le Omer. Amar Rava a répondu, Shane Hadash, c'est différent dans le cas de Hadash, pourquoi? Mitor Shelo et Tartalo et la Edekitouf, Ouzacho, puisque tu lui as permis seulement d'arracher et pas de moissonner avec une faux, donc il va se rappeler qu'il n'a pas le droit de le consommer. Donc c'est-à-dire que, comme on a dit, il y a un issour aussi de moissonner avec un outil, la nouvelle récolte, tant qu'on n'a pas fait la moisson du Homer, donc on coupé de l'orge pour le Korban à Omer, et c'était seulement à partir de ce moment-là qu'on avait le droit de moissonner toutes les récoltes. Chacun avait le droit de moissonner sa récolte. Donc puisque on n'a pas le droit de moissonner sa récolte, par contre on a le droit d'arracher avec la main. Donc forcément la manière dont ils ont pris ce blé ou ces céréales, c'était en les arrachant et pas en les moissonnant normalement avec des outils. Donc c'est ça qui va leur rappeler de ne pas le manger. Amar le Abaye, alors Abaye a opposé à Rava et lui dit Tinach Veshat Ktifa, Trina Varkada Maikalemema. Il dit là tu réponds seulement à la question du moment où il a détaché, où il a arraché ces céréales, mais au moment où il les mou et où il les tamise, qu'est-ce que tu vas dire? À ce moment-là, il n'y a rien qui va lui rappeler de ne pas les manger. Elle répond à l'Akasha. Donc Rava répond à Abaye, lui dit non, mais ça c'est pas une question. Trina Berechaya Deyad, Arkada al Gabenapa. Là aussi, le moudre, il faudra le faire avec un moulin manuel et pas avec un moulin à eau comme il faisait d'habitude. Donc c'est ça qui va lui rappeler de ne pas manger à ce moment-là. Et tamiser, on le fait sur le dos du tamis, pas à l'intérieur du tamis comme d'habitude, mais on retourne le tamis à l'envers et on le tamise comme ça. Et c'est ça qui va nous rappeler de ne pas manger à ce moment-là. Je me demande, et là, dit Nan, mais lorsqu'on enseigne dans la Mishnah, Kotsrin, Betashelachim, Meshibah Makim, Avalo Gotchin, on a enseigné dans la Mishnah qu'on a le droit de moissonner, normalement, c'est-à-dire avec des outils, Beta Shelachim, c'est des champs qui doivent être irrigués, qu'on doit irriguer, parce qu'ils ne se suffisent pas de l'eau de pluie. et chez Ben Makim, les champs qui sont dans les vallées. Alors pourquoi est-ce que ce loi a le droit de les moissonner avant de moissonner le homer, contrairement aux autres champs, comme on a dit avant, qu'on n'a pas le droit de moissonner avec des outils avant d'avoir moissonné le homer. Là, cela c'est permis parce que on apprend dans les psukim que de ces endroits-là, on ne peut pas apporter de le homer parce que c'est des céréales de mauvaise qualité. Donc, puisqu'ils peuvent pas se servir au homer, on a le droit de les moissonner. Avallo gochin, mais on n'a pas le droit de les mettre en tas, de faire des meules. Donc ça, c'est assourd parce que c'est pas indispensable. Donc c'est-à-dire que les chachamim ont permis de moissonner parce que il faut pas laisser le blé sur pied une fois qu'il est prêt à être moissonné. Par contre, c'est pas impératif de faire des tas. Donc là, ils ont interdit de peur qu'ils le mangent. Veukimna ki Rabbi Yehuda. Or, on a interprété que cette Mishnah va d'après Rabbi Yehuda. Et Maïka Lemema. C'est-à-dire que par ailleurs, la Gemara prouve que cette Mishnah va d'après Rabbi Yehuda. Et on voit que Rabbi Yehuda permet malgré tout ici de moissonner. Et il n'a pas fait de xéra de peur qu'on le mange. Donc Maïka Lemema, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va répondre ici? Pourtant, il n'y a pas de équerre, il n'y a rien qui va lui rappeler de ne pas manger. Et là, Amar Abaye, donc à cause de cette question, Abaye propose une autre explication. Il dit « Hadash badil mine, Hametz lo badil mine ». La différence, c'est que dans le cas de Hadash, c'est quelque chose dont les gens sont séparés, c'est-à-dire les gens n'ont pas l'habitude de manger du Hadash. Donc, comme ils sont pas habitués à les manger, donc on ne craint pas qu'ils aient le réflexe de le manger. Alors que le Hametz, qu'on a l'habitude de manger toute l'année, on a un réflexe de le manger. Donc, on risquerait de le manger si on fait l'abdicat Hametz. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit qu'il faut pas faire l'abdicat Hametz après Chatzot. Amar Rava, Rava a dit, des Rabbi Yehuda, des Rabbi Yehuda Kashia, des Rabbanan de la Kashia. Alors il s'étonne, il dit, mais est-ce que il y a seulement une contradiction de Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda à laquelle Abaye a répondu, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une contradiction de Chachamim à Chachamim? C'est-à-dire que dans la Mishnah, on voit que Chachamim disent qu'il faut faire le bdikat Hametz même après Chatzot, donc ils ne craignent pas qu'ils mangent le Hametz qu'ils trouvent, alors que dans le cas de Hadash, Rabbi Meir a dit que c'était contraire à la volonté des Chachamim. Rabbi Meir fait partie certainement des Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda dans notre Mishnah de bdikat Hametz, et pourtant là-bas, il dit que il fallait pas préparer le Hadash. Donc on voit qu'il craint qu'il le mange. Donc Rava répond des Rabbi Yehuda la kasha que des Shaninan. Donc il n'y a pas de contradiction de Rabbi Yehuda, comme on a répondu avant, comme Abaye a répondu, qu'il y a une différence entre le Hadash qu'on n'a pas l'habitude de manger et le Hametz qu'on a l'habitude de manger toute l'année. Des Rabbanan amin le kasha. Les Chachamim non plus, c'est pas une contradiction. Ou Asmo, Mechazer, Alav, Les Sorfos, Michal, Kachil, Mine. Dans le cas de Chametz, puisque il est en train de rechercher le Chametz, pourquoi? Pour le brûler. Tout son objectif, tout son but, c'est de brûler le Chametz. Est-ce qu'il va en manger? C'est-à-dire que c'est sûr qu'il est conscient qu'il y a un issur, puisque c'est pour ça qu'il recherche le Chametz pour le brûler. Donc il risquerait pas de le manger. Alors que dans le cas du Hadash, il le recherche pas pour l'éliminer, mais pour, il le moue pas, il s'en occupe pas pour l'éliminer, mais au contraire pour le vendre. Donc là, il risquerait de s'oublier et de le manger. Ravashi Amar, Ravashi propose une autre réponse. Il dit des Rabbi Yehuda la Kashia. Il n'y a pas de contradiction de Rabbi Yehuda. Kemach vekalit nan, puisqu'on a parlé dans la Mishnah de kemach et kalit, c'est-à-dire que ce qu'ils mettaient sur le marché, c'était de la farine et du blé grillé. Donc c'est des choses qui ne sont pas mangeables telles quelles. Donc c'est pour ça qu'ils ne risquent pas de les manger. Contrairement à bdikat Hametz, on parle de ça peut être du Hametz qui est mangeable, donc il pourrait trouver du Hametz qui est mangeable, il risquerait de le manger. Et la Gemara a dit bah des Ravashi bedutai. Mais en fait ce que Ravashi a dit, c'est faux. Pourquoi? Hatinach mikali vailach meikarat kali maikal emema. Parce que ça répond seulement à partir du moment où on a grillé ou qu'on a moulu le blé, mais avant ça, qu'est-ce qu'on va répondre? Avant ça, c'était mangeable parce que c'était des grains de blé qui étaient encore tendres, donc qui étaient mangeables. Donc pourquoi est-ce qu'à ce moment-là on ne craint pas qu'il va les manger? Les chitema les dekituf que des rava. Alors si tu me réponds que c'est parce que avant ça c'est le moment où il arrache le blé, et à ce moment-là comme il l'arrache à la main et il n'utilise pas d'outil, donc c'est ça qui va lui rappeler de ne pas le manger, comme ce que Rava avait répondu. Et la kotzim etashelachin shemam akim ukimna kerabuda maikalemema. Mais on repose la question qu'on avait posée précédemment contre Rava, c'est que on a l'autre Mishnah qui dit que on peut moissonner les champs qu'il faut arroser et les champs des vallées desquels on ne peut pas porter le homer. et on a interprété cette Mishnah comme Rabbi Yehuda, et là-bas, il n'y a rien donc qui va nous rappeler de ne pas manger, et malgré tout, Rabbi Yehuda a permis de les moissonner, et il n'a pas craint qu'ils le mangent. Et là, des Ravashi Benutaï. Donc forcément, ce que Ravashi a dit, c'est faux. La Gemara s'étonne maintenant sur la règle qu'on a dit plus haut. Donc, Rava avait donné une Abaye, pardon, a donné une règle. Il a dit que le Khadash, on en est séparé naturellement parce qu'on n'a pas l'habitude de le manger, alors que le Khametz, on n'est pas séparé. La Gemara demande, Vechol Echad Elo Badil Mine Migazar Rabbi Yehuda. Mais est-ce que Rabbi Yehuda a interdit à chaque fois que c'est quelque chose dont on n'est pas séparé, comme dans le cas du Khametz? Donc ça veut dire à chaque fois que on est confronté à quelque chose que on n'a pas le droit de consommer et que on a l'habitude de consommer généralement, est-ce que Rabbi Yehuda interdit? Vatnan, pourtant c'est dans la Mishnah dans Bamei Madlikin dans Shabbat. Lo ikov adam shufaret shel betza v'imaleena shemen v'itenena betza daner b'shvi sh'teyeh min hatefet v'afilu shel cheres. Donc on n'a pas le droit de percer une coquille d'œuf, la vider de son contenu et de la remplir d'huile et la mettre au-dessus de la lampe. Alors dans les Mishnayot s'écrit Vetnena Alpi Haner, donc au-dessus de l'ouverture de la lampe pour que ça goûte petit à petit, que l'huile tombe dans la lampe et que ça alimente la lampe, que ça ajoute de l'huile pour que la lampe dure plus longtemps. Et ça c'est interdit même si c'est pas une coquille d'œuf, mais même si c'est un récipient en argile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'a pas le droit de le faire parce qu'on craint que la personne se serve de cette huile pour sa consommation, et en enlevant de l'huile qui se trouve là-bas, ça s'appelle kiboui, c'est mechabé, c'est comme s'il éteignait la lampe parce que elle va brûler moins longtemps. Donc ça s'appelle mechabé, et donc c'est pour ça que on ne permet pas de faire cette installation, parce que alors, même si dans une lampe, en général, on ne craint pas que on se serve de l'huile, mais là, parce qu'on est conscient que quand on prend de la lampe, on est en train de prendre du combustible de la lampe, alors que là, comme c'est au-dessus et c'est pas dans la lampe elle-même, on pourrait croire que ça fait pas partie de la lampe et donc il n'y a pas de histoire de mechabé, donc on risquerait de se tromper. Donc c'est pour ça que les chachamim ont interdit de le faire, et même si c'est en argile et que donc l'huile qui est à l'intérieur est sale, l'argile ça salit l'huile et ça la rend moins consommable, et on aurait pu croire que dans ce cas-là on va pas craindre qu'ils prennent de l'huile pour s'en servir pour sa consommation. Malgré tout, la Mishnah dit que c'est assourd, mais Rabbi Yehuda m'attire. Par contre, Rabbi Yehuda permet. Donc on voit que Rabbi Yehuda, même pour de l'huile, qui est quelque chose qu'on a l'habitude de consommer pendant toute la semaine, mais il craint pas ici qu'on prenne l'huile et qu'on la consomme. Ma réponse, attends, Mishum Chumra de Shabbat, Mivdal Bedile. Là-bas, comme Shabbat est grave, c'est-à-dire que les gens sont conscients que Shabbat, c'est quelque chose de très grave de transgresser Shabbat, donc les gens s'en écartent naturellement, alors que ici, les gens ont moins la conscience de la gravité du Khametz. La Gemara demande de ramener des Shabbats à Shabbat, mais on oppose donc ce qui a été dit dans cette Mishnah à propos du Shabbat à un autre din qui est dit dans Shabbat, Netanyahu, dans Sena Breta, révèle l'ishenifsak. Si on a la corde d'un seau qui a craqué, donc c'est-à-dire qu'on a un seau qui est attaché à une corde pour le faire descendre dans le puits pour puiser de l'eau, et cette corde a craqué, l'oye kosho est là en nouveau. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de la nouer, parce que c'est Kesher Shel Kayama, c'est un nœud qui est définitif, et donc c'est un Issur Minatora, c'est un Melacha de Kosher, mais en nouveau, il peut faire une boucle, c'est une boucle qui se défait quand on tire dessus, donc ça s'appelle pas un Kesher, et c'est permis. Rabbi Yehuda Omer, Kore Chalav Punda ou Paskia, ou Bilvat Shelo Yanvenu. Alors que Rabbi Yehuda dit qu'on peut enrouler dessus Punda ou Paskia, ou Psikia, c'est deux sortes de ceintures, donc il dit on peut joindre les deux bouts de la corde sans les nouer et enrouler autour une ceinture, ou bilvat shelo yanvenu. Mais on n'a pas le droit de faire de boucles. Donc lui, Rabbi Yehuda interdit de faire une boucle. Et on comprend a priori que c'est de peur que en faisant une boucle, il s'oublie et qu'il fasse un nœud. Donc on voit que on craint qu'on arrive à faire quelque chose d'assourd si on est occupé avec quelque chose qui présente un potentiel de issour. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda n'a pas interdit dans le cas de la coquille d'œuf? Agmara dit, donc, Kashia de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, Kashia de Rabbanan de Rabbanan. On a une contradiction de Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda. Dans le cas de la lampe il n'a pas interdit, alors que dans le cas de la corde, il a interdit de faire une boucle et il a fait une xéra. Et kasha de rabbanan de rabbanan, il y a aussi une contradiction de chachamim à chachamim. Dans le cas de la lampe, ils ont interdit et ils ont craint qu'ils s'en servent, alors que dans le cas de la corde, ils n'ont pas craint qu'ils fassent un nœud. Ils lui ont permis de faire une boucle. Et on répond de rabbanan la kasha. Il n'y a pas de contradiction de chachamim à chachamim. Pourquoi? Shemen be shemen michlaf, aniva bikshira lo michlaf. De l'huile, l'huile qu'il y a dans la lampe avec l'huile qu'il a l'habitude de consommer, ça, il peut faire la confusion. Et donc, comme il a l'habitude de consommer de l'huile, il va consommer aussi cette huile-là, sans faire attention qu'ici, il y a un problème de méchabé. Alors que une boucle avec un nœud, ça, c'est quelque chose qu'on ne confond pas. Et donc, il risque pas de faire un nœud. Des Rabbi Yehuda, la kasha. Et il n'y a pas de contradiction non plus de Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda. Ta'ama des Rabbi Yehuda, la mishum des gazar aniva tukshira, et la mishum des kasavar aniva gufa kshirai. La raison pour laquelle Rabbi Yehuda interdit de faire une boucle dans le cas de la corde qui s'est cassée, c'est pas parce que il fait une xéra de peur qu'il fasse un vrai nœud, mais parce qu'il pense que la boucle en soi c'est un vrai nœud. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de xéra, mais parce qu'il pense que la boucle c'est considéré comme un nœud et ça pose un problème de kesher shel kayama. L'Agmara dit veramé des rabbanan des rabbanan, et on oppose ce que les chachamim ont dit ici par rapport à la corde du seau avec ce qu'ils ont dit par ailleurs. Detnan, on enseigne à Mishnah, Koshrin dli bepaskia avalo bechevel. On peut attacher un seau avec une ceinture, mais pas avec une corde. Donc là, on a le droit d'attacher le seau à une ceinture pour le faire descendre dans le puits. Et là, ça s'appelle pas Kesher Shel Kayama parce qu'on sait que la ceinture, il va pas laisser aller là-bas, puisqu'il a besoin de sa ceinture. Donc forcément, après, il va l'enlever, donc c'est quelque chose de provisoire. Mais pas avec une corde, parce que la corde, il pourrait la laisser là-bas, donc ça pourrait être un Kesher Shel Kayama. Et Rabbi Yehuda m'attire, et Rabbi Yehuda permet même de le faire avec une corde. Et la Gemara demande Chevel des mailles, de quelle sorte de corde on parle. Et les ma Chevel des Alma, hein, si tu dis que c'est une corde ordinaire, Rabbi Yehuda m'attire, que cherche le Kayama ou? Mais comment c'est possible que Rabbi Yehuda permette d'attacher le seau avec cette corde ordinaire? Mais c'est sûr que ça pourrait être un Kesher Shel Kayama, des vadaï et télévatoulé, parce que c'est sûr qu'il risque de laisser ça là-bas, donc ça peut être un nœud définitif, donc c'est sûr que Rabbi Yehuda devrait interdire, et la pshita, des gardis, donc c'est sûr, il est évident qu'ici on parle pas d'une corde ordinaire, mais d'une corde de tisserand, donc que le tisserand utilise, et que là c'est sûr qu'il va l'enlever, alors pourquoi c'est assour d'après Chachamim, vegazro rabanan, chevel des gardis, atur chevel des alma. Et les chachamim ont fait une zéra et ont interdit la corde des tisserands à cause d'une corde ordinaire. Donc on voit qu'ils font une zéra. Alors que dans le cas de Aniva et Kshira, ils n'ont pas interdit la boucle à cause du nœud. Agma répond, in, effectivement. Chevel bechevel michlaf. Une corde, on peut la confondre avec une autre corde. Une corde de tisserand avec une corde ordinaire, ça peut se confondre. Alors qu'Aniva et Kshira, lo michlefa. Alors qu'une boucle avec un nœud, ça c'est quelque chose qu'on ne confond pas. La Gemara demande maintenant le contraire. Vechol echad ebadil miné lo gazar Rabbi Yehuda. Donc Abaye avait dit que d'après Rabbi Yehuda, lorsque c'est quelque chose dont on a l'habitude de se séparer, donc on n'interdit pas. Donc comme le chadash qu'on n'a pas l'habitude de consommer, donc on n'interdit pas. Mais quand c'est du chametz qu'on a l'habitude de consommer pendant toute l'année, donc l'eau va diminuer, on n'en est pas séparé, donc là, il interdit la peur qu'on le consomme. Et l'Agma avait demandé avant, par rapport à la première partie de cette règle que Abaye a énoncée, que même dans le cas où on n'a pas l'habitude d'en être séparé, malgré tout, Rabbi Yehuda permet, et maintenant l'Agma pose la question inverse, que même dans le cas où on en est séparé, Rabbi Yehuda devrait interdire, parce qu'on a vu que même dans un cas où c'est quelque chose dont on est séparé, malgré tout Rabbi Yehuda interdit. Donc la Gemara demande, Vechol echad ebadil miné lo gazar Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Yehuda n'a pas interdit dans tous les cas où c'est quelque chose dont on est séparé, Vatnan, pourtant c'est dans la Mishnah, Bechor shachazodam, un Bechor, ça veut dire un animal qui est Bechor, qui est premier-né. Donc on le donne au Kohen. Et s'il n'a pas de moum, le Kohen doit l'apporter comme korban, il y a une partie qu'il consomme. Et s'il a un moum, on n'en fait pas un korban, et le Kohen le consomme entièrement. Et là, on parle d'un Bechor qui est chez Achazodam, c'est-à-dire qu'il a trop de sang. Donc il faut lui faire une saignée pour lui enlever une partie du sang, parce que sinon il risquerait de mourir. Et la Mishnah dit que « Afilu umet en mekizin nodam » dit Rabbi Yehuda. Même s'il va mourir, on ne fait pas de saignée d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi ? Parce que même si en soi le fait de faire une saignée n'est pas considéré comme un moum, on n'a pas le droit de faire un moum à un béchor, on n'a pas le droit de le faire que ce soit directement ou indirectement, et là, a priori, faire une saignée n'est pas ne cause pas de moum, si simplement on fait une incision pour faire sortir du sang dans la majorité du corps, ça ne pose pas de problème. Mais il y a certains endroits où ça pourrait poser un problème si je fais ça à la lèvre ou à l'oreille, si c'est un endroit où ça ne va pas revenir. Donc c'est un défaut qui va rester définitivement. Donc là, ça s'appelle un moum. Donc Rabbi Yehuda a interdit de faire une incision, même une simple incision, de peur qu'on lui fasse un moum. Alors que Chachamim dit, si, il peut faire la saignée, mais il doit juste faire attention de ne pas le faire à un endroit où ça va être un moum. Donc on voit que, bien qu'il s'agit de Bechor, et le Bechor, naturellement, on s'en sépare, parce que on n'a pas le droit de consommer le Bechor, malgré tout, Rabbi Yehuda interdit, a craint qu'on lui fasse un moum. Donc on voit que même quelque chose dont on est séparé a priori, malgré tout, Rabbi Yehuda pense que on risquerait de lui faire un moum. Ma réponse à Tam, Mitor Shadam Baoul Alma Mono, Amrina, Nisharitle, Mamakom, Shenosim Bomoum, Atele, Mehebad, Mkom, Shosim Bomoum. Là-bas, comme Adam Baoul Alma Mono, c'est-à-dire qu'un homme a peur pour son argent, donc quand il voit ce Bechor qui lui appartient, donc il s'agit du Kohen, il voit qu'il va perdre son Bechor, qu'il risque de mourir à cause de ce trop plein de sang. Là, on dit que si on lui permet de faire une saignée à un endroit où ça ne fait pas un moum, il risquerait de la faire aussi à un endroit où ça fait un moum. Il risque de ne pas se retenir et de faire même à un endroit où ça fait un moum, c'est-à-dire il va pas faire attention de le faire à un endroit où ça ne fait pas de moum, parce que justement il est préoccupé par son risque de perdre son argent. Vera banane, alors que Rachamim pense, Kol Sheken, il le charite l'éclat, à tel mévad, au contraire, à plus forte raison que si tu lui permets rien, donc là il va pas se retenir, il va le faire quand même, et là il va pas faire attention de le faire à un endroit où ça fait pas de moum, parce que pour lui, de toutes les façons, il est en train de transgresser quelque chose d'interdit, donc il fait pas la différence entre le faire à un endroit où ça fait pas de moum et à un endroit où ça fait un moum. Alors que il vaut mieux lui permettre de le faire à un endroit où ça fait pas de moum, comme ça il risque pas de le faire à un endroit où ça fait un moum. Agmara demande, Oumi Amrinal Rabbi Yehuda Adam Baoul Alma Mono. Agmara conteste donc ce qu'on a répondu, que d'après Rabbi Yehuda, pourquoi c'est interdit? Parce que il est pris de panique pour son argent. Agmara demande, mais est-ce que Rabbi Yehuda pense une chose pareille? Ve'atnan, pourtant on fait un Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, En mekardin abema beyom tov, mipne shose chabouav al mekard sefin. Donc Rabbi Yehuda parle d'un animal qui est couvert de boue et donc qui en souffre. Et on veut brosser cet animal pour lui enlever cette boue qui le fait souffrir. Et il dit qu'on n'a pas le droit de le brosser pendant Yom Tov, parce que ça peut faire une blessure. Faire une blessure, c'est un issur de Netilat Neshama. Donc c'est comme faire la shrita. On n'a pas le droit de faire saigner un animal. Donc on n'a pas le droit de le brosser avec une brosse qui peut faire une blessure. Aval Mekart Sefin, mais on peut le brosser avec une brosse qui ne fait pas de blessure, et la Gemara va expliquer après. Alors que Chachamim disent, ni avec cette brosse, ni avec l'autre, avec aucune brosse, on ne peut la brosser. Vetania, on enseigne dans la Breta, Ezeu Kiroud, Vezeu Kirtsouf. Qu'est-ce qu'on appelle Kiroud et qu'est-ce qu'on appelle Kirtsouf? Kiroud, Ktanim, Vosin, Chaboura. Kiroud, c'est une brosse qui a des petites dents, des fines dents, donc qui peuvent faire des blessures, qui sont susceptibles de faire des blessures. Kirtsouf, Dolim, Vosin, Chaboura. Alors que Kirtsouf, c'est avec une brosse qui a des dents épaisses et donc qui ne font pas de blessure. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que Rabbi Yehuda permet de brosser avec des dents, une brosse qui a des dents épaisses, et on ne craint pas, donc parce qu'il est Baoul Alma Mono, parce qu'il a peur pour son argent, pour sa bête qui est en train de souffrir, qu'il ne vienne à la brosser avec une brosse qui pourrait faire une blessure. Agmara répond, Atam de Ishavik Lemaï Tamrinada Baoul Alma Mono, là-bas dans le cas du Bechor, qui a trop de sang, là s'il le laisse comme ça, il risque de mourir. Là effectivement on dit Adam Baoul Alma Mono, qu'il panique pour son argent. Acha, Ishavik Le Tsarab Alma Mono. Lo amrinan dam baou lama ono. Alors que ici, même s'il le laisse tel quel avec la boue, la bête ne fait que souffrir. Donc là, par rapport à ça, on ne dit pas dam baou lama ono. Il n'est pas paniqué puisqu'il sait qu'il ne va pas le perdre complètement. Donc là, on peut effectivement lui permettre de le faire avec une brosse avec des dents épaisses. Voilà, demande Rabbi Uda, Maïchna Gabé Khamet de Gazar ou Maïchna Gabé Kirtsouf de l'Ogazar. Mais d'après Rabbi Uda, quelle différence? Pourquoi dans Khamet il a fait une zéra de peur qu'il le mange? Alors que dans le cas de Kirtsouf, dans le cas de la bête qu'on brosse, il a pas fait de xéra, il a permis de la brosser avec une brosse à dents épaisse. Ma réponse, lechem belechem michlaf. Du pain avec du pain, on peut confondre, c'est-à-dire le pain de toute l'année avec le pain pendant Pessah, on peut oublier, ne pas faire attention que c'est assur maintenant. Kidur bekirut bekirtsouf le michlaf. Alors que les deux sortes de brosses, ça c'est quelque chose qu'on ne confond pas. On ne va pas confondre une brosse avec des dents fines et une brosse avec des dents épaisses. Donc là, c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de faire de xéra. La Mishnah dit Rabbi Meir Omer, Ochlin kol chametz v'sorfim triat shesh. Rabbi Meir dit que on peut manger le chametz pendant toute la cinquième heure et on doit commencer à brûler au début de la sixième heure. Alors comme on avait déjà vu plus haut dans l'Agmara, le Issur Minatora débute à partir de Chatzot. À partir de Chatzot, on n'a plus le droit de consommer ni de posséder du chametz. Et Rabbi Meir dit que on peut consommer le chametz seulement jusqu'à la fin de la cinquième heure. Donc c'est-à-dire qu'il faut arrêter de manger le chametz une heure avant Chatzot, midérabanan, de peur qu'il se trompe, d'heure et qu'il pense que c'est seulement la cinquième, la sixième, le début de la sixième heure alors que c'est déjà Chatzot et qu'il mange du chametz. Donc c'est pour ça qu'on lui interdit de consommer le chametz à partir de 6 heures, donc la fin de la cinquième heure. Et on brûle au début de la sixième heure. Là aussi, on a avancé d'une heure. Le bio chametz, il faudrait le faire au début de la septième. On l'a avancé au début de la sixième. Mis des rabananes, de peur que il se trompe d'heure. Rabbi Uda Omer, Ochlin kol arba vetolin kol chamesh, sofim triat shesh. Rabbi Uda dit non, on a le droit de manger seulement les 4 premières heures de la journée. Au bout de 4 heures, on n'a plus le droit de manger. La 5e heure, la 6e heure, on n'a plus le droit de manger. Parce qu'on craint qu'on confonde, qu'on fasse une erreur de 2 heures, que ce soit déjà chatzot, et qu'on pense que c'est seulement la 5e heure, qu'il est seulement 4 heures. Donc c'est pour ça qu'à partir de 4 heures déjà, on interdit. Et par contre, on a le droit de continuer encore à en profiter. Ça, les Chachamim ne l'ont pas interdit. Parce que comme c'est quand même une erreur qui est assez rare, donc les Chachamim ont interdit seulement de manger, mais pas d'en profiter pour qu'ils puissent, en attendant, se débarrasser de son Chametz sans perdre d'argent. Et son film Triatchesh, et on brûle, là aussi, lui est d'accord, il est aussi d'accord avec Rabbi Meir, que pour brûler le Chametz, c'est au début de la sixième heure. Ve'odama Rabbi Uda, et Rabbi Uda a dit également, Shtei Chalot Shel Todah Psulot Munachot Al Gav Ha'Itztaba, que alors Rabbi Uda va décrire ce qu'il faisait à l'époque du Beth Amikdash pour que les gens sachent à quel moment on doit s'arrêter de manger, à quel moment on n'a plus le droit de profiter, etc. Donc selon ce que Rabbi Uda, selon sa propre shita, il dit qu'il mettait des pains de Toda comme signe pour les gens. Alors le Korban Toda devait être accompagné de 40 pains, 40 pains qui étaient 10 pains de 4 catégories différentes, chaque catégorie 10 pains. Et il y avait trois sortes de pains qui étaient matzah et une sorte de pain qui était chametz. Donc 10 pains chametz et 30 pains matzah. Là, d'après Rashi, quand on parle de deux chalotes de toda, c'est deux chalotes de chametz qu'ils utilisaient pour ça. Psoulot qui était psoulot, parce que si c'était kasher, on n'a pas le droit de les laisser comme ça, elles vont être forcément perdues puisque après on pourra pas les consommer puisque ça va devenir assourd à cause du sourd de chametz. Donc, on prenait pas des pains de Toda qui étaient cachers, mais pas soul. La Gemara avait expliqué c'est quoi pas soul. Et on les posait au-dessus des bancs. Il y avait des bancs sur Arabaït. Et on posait donc ces deux pains sur un banc. Kolzman shemunachot kola amochil. Et les gens savent que tant que les deux pains sont là-bas, on peut continuer à manger du chametz. Nitla achat tolin lochlin losofim. Après, il y avait quelqu'un donc qui était responsable de ça. Il enlevait au bout de 4 heures, à partir du début du jour, il enlevait un pain des deux. Et là, les gens savaient qu'il fallait arrêter de manger, mais qu'ils pouvaient encore en profiter, qu'ils n'avaient pas besoin de brûler. Et à partir de la sixième heure, ils enlevaient aussi le deuxième pain. Et donc là, les gens comprenaient qu'il fallait brûler, et ils commençaient à brûler leur chametz. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit, Chulin Nechalin Kol Arba, Utruma Kol Chamesh, Vesorfin Triat Shesh. Donc Rabban Gamliel est d'accord avec Rabbi Yehuda pour les Chulin, qu'on peut les manger que jusqu'à la fin de 4 heures. La cinquième heure, on n'a déjà plus le droit de les manger. Mais pour la Trouma, il dit c'est différent, on a le droit de manger la cinquième heure, parce que on n'a pas le droit de perdre quelque chose qui est kadosh, donc comme la Trouma, on n'a pas le droit de causer sa perte. Donc si on peut encore le manger, on doit autoriser, donc il pense que les Chachamim ont permis de continuer à manger la Trouma pendant la cinquième heure pour ne pas la perdre. Et sur le film Triat Shesh, là, il est d'accord que on brûle le Chametz au début de la sixième heure. Nanatam. Alors, la Gemara va rapporter maintenant un autre sujet, qui est un sujet de témoignage dans Sanhedrin. Et elle va expliquer ce sujet-là. Et après, on va comparer ça à ce qu'on a vu dans la Mishnah. C'est aussi une question d'horaire, de se tromper dans les horaires. Et on va voir ce qui est écrit dans la Mishnah dans Sanhedrin à ce propos. Et après, la Gemara comparera avec notre Mishnah. Donc, Nanatam, on a enseigné là-bas dans Sanhedrin. Echad omer bishneim bachodesh ve echad omer bishlosha. Donc si on a deux témoins qui viennent témoigner qu'une personne a tué une autre personne, donc il y a eu un meurtre, et ils viennent témoigner, et on les interroge, comme on verra plus loin, il y a une série de questions qu'on leur pose par rapport à la date et à l'heure où le meurtre s'est passé, pour voir si leur témoignage est fiable. Et la Mishnah nous dit que si un des deux témoins dit que le meurtre a eu lieu le 2 du mois, et l'autre témoin dit que c'était le 3 du mois, et Doutan Kayemet, leur témoignage est valable. Il est recevable, on l'accepte. Chez Yodéa Beiburo Shechodesh, Chez Noéda Beiburo Shechodesh. Parce qu'en fait, comme on voit que, après on leur pose aussi une question par rapport à quel jour de la semaine, et ils parlent bien du même jour de la semaine, donc on explique la différence de date entre les deux, du fait qu'il y en a un qui sait que le mois précédent était Meoubar, ça veut dire qu'il avait 30 jours, alors que l'autre ignore que le mois précédent était de 30 jours, il pense qu'il était de 29 jours. Donc c'est pour ça qu'il pense qu'il y a qu'on est déjà le 3, qu'à ce moment-là on était déjà le 3 du nouveau mois, alors que l'autre sait qu'on est seulement le 2 du nouveau mois. Ou que soit dit, ça peut être aussi l'inverse, que au contraire le mois précédent n'était pas Meoubar, donc celui qui a raison c'est celui qui dit que c'est le 3, et l'autre se trompe et pense qu'il était Meoubar, et donc c'est pour ça qu'il a dit que c'est le 2. Et Tosfot explique que là, on n'a même pas besoin de leur poser la question, puisque après, quand ils indiquent le jour, on voit qu'ils parlent du même jour. Donc, puisque c'est une erreur très très commune, très courante, donc on suppose qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils se sont trompés par rapport à savoir quand est-ce que de combien de jours était le mois précédent, et donc leur témoignage est valable. Par contre, Echad Omer Bishlosha Echad Omer Bechamisha, Edutan Betela. S'il y en a un qui dit que ça a eu lieu le 3 du mois et l'autre dit le 5, là, leur témoignage n'est pas recevable puisque on n'a pas d'explication à cette différence. Il n'y a rien qui justifie qu'ils se soient trompés de deux jours. Parce que si c'était par rapport au Hibour, la différence c'est que d'un jour. Il n'y a pas de différence de deux jours. Donc là, on n'accepte pas leur témoignage, même si après ils disent que c'est le même jour, mais c'est comme si c'était rétracté, même s'ils disent que ils indiquent bien qu'il s'agit du même jour de la semaine. Malgré tout, c'est comme si c'était rétracté. Et donc, le témoignage n'est pas accepté. Echad omer b'shtei sha'ot v'echad omer b'shalosh sha'ot edutan kayemet. Maintenant, si au niveau de l'horaire, il y en a un qui dit que le meurtre s'est passé à 2 heures, l'autre qui dit que ça s'est passé à 3 heures, là, leur témoignage est valable. Echad omer b'shalosh v'echad omer b'chamesh edutan betela. Divrei Rabbi Meir. Par contre, s'il y en a un qui dit à 3 heures, l'autre qui dit à 5 heures, leur témoignage n'est pas valable, donc c'est l'avis de Rabbi Meir. A priori, on comprend que Rabbi Meir accepte une erreur d'une heure, mais pas de deux. Mais on verra après que la Gemara va dire différemment. Rabbi Yehuda Omer et Doutan Kayemet. Rabbi Yehuda dit non, même dans le cas de 2 heures d'écart, 3 heures et 5 heures, leur témoignage est valable. Et Echad Omer Bechamesh Echad Omer Becheva et Doutan Betela. Par contre, même d'après Rabbi Yehuda, dans le cas où un a dit que ça s'est passé à 5 heures, l'autre qui dit que ça s'est passé à 7 heures. Là, le témoignage n'est pas valable. Pourquoi? Chez Bechamesh, Chama Bamizrach, ou Becheva, Chama Bamarav. Parce que, à 5 heures, le soleil se trouve encore à l'est. Donc, 5 heures, c'est avant Chatzot. Avant Chatzot, le soleil est à l'est. Alors qu'à 7 heures, c'est après Chatzot, le soleil est déjà du côté ouest. Donc ça, on peut pas confondre 5 heures avec 7 heures. On voit bien que l'ombre, elle se projette différemment, dans une direction différente. À 5 heures, l'ombre est vers l'ouest, puisque le soleil est à l'est, donc l'ombre est à l'ouest. Et inversement, à 7 heures, le soleil étant à l'ouest, l'ombre est projetée du côté est. Donc ça, on peut pas le confondre. Et donc c'est considéré comme une contradiction dans leur témoignage, et ça invalide leur témoignage. Amar Abaye, alors Abaye explique maintenant la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Il dit que chez Timtse Lomar, si tu approfondis, tu arriveras à la conclusion que les divrei Rabbi Meir, un adam toev elokloum, que selon Rabbi Meir, on suppose que on n'est pas censé faire d'erreur du tout. Les divrei Rabbi Yehuda, adam toev chatisha. Alors que d'après Rabbi Yehuda, l'erreur, la marge d'erreur possible est d'une demi-heure. Comment ça? Les divrei Rabbi Meir, un adam toev elokloum. D'après Rabbi Meir, on n'accepte aucune erreur et on pense que un homme n'est pas supposé faire une erreur d'horaire. Maase kiava bemifaktarte umael tlat. Et en fait, on va dire que le meurtre est arrivé à la fin de la deuxième heure, au début de la troisième heure. Ça veut dire vraiment à 2 heures pile. Donc ça veut dire c'est la deuxième heure est terminée et c'est la troisième heure qui débute. Vea deka amar shtaim besof shtaim. Et donc celui qui a dit deuxième heure, ça veut dire à la fin de la deuxième heure, donc ça veut dire à 2 heures terminées, va des kamar shalosh mitrilat shalosh. Alors que celui qui a dit 3 heures, ça veut dire il veut dire le début de la troisième heure, mais il parle exactement du même moment. Les divrei Rabbi Yehuda, alors que d'après Rabbi Yehuda, adam toev chatisha, on peut faire une erreur d'une demi-heure, et maase kiava bepagadar baava, et on suppose que le meurtre a eu lieu au milieu de la quatrième heure, donc c'est à 3h30, va des kamar shalosh besof shalosh. Celui qui a dit à 3 heures, ça veut dire à la fin de la troisième heure, et donc il se trompe d'une demi-heure, puisque c'était pas à la fin de la troisième heure, c'était pas à 3 heures, mais à 3h30. Donc, katae palga deshata le kame, il fait une erreur d'une heure en avant, c'est-à-dire en avant, il est en avance d'une demi-heure, il fait une erreur, en avance d'une demi-heure, vaide de kama chamej, mitriat chamej, katae palga deshata le achore. Alors que celui qui a dit à 5 heures, ça veut dire au début de la cinquième heure, donc une heure après 3h30, ça veut dire en fait à 4h, et il se trompe d'une demi-heure en retard. Il est en dehors en retard d'une demi-heure. Alors la Gemara va poser la question après, mais comment on se permet de supposer des choses pareilles? On fait des suppositions que en fait il veut dire la fin de la troisième heure, l'autre il veut dire le début de la cinquième heure, et en fait ça s'est passé exactement à 3h30, etc. D'après Rabbi Meir, d'après Rabbi Yehuda, mais on va voir plus loin qu'il y a un principe qu'on cherche à invalider le témoignage pour ne pas, justement pour sauver l'accusé, pour ne pas qu'il soit condamné à mort. Et comment ça se fait que ici on fait des suppositions à charge pour supposer que le témoignage est valable, au lieu de leur poser la question et de leur demander qu'est-ce que vous avez voulu dire, et éventuellement ça pourrait invalider leur témoignage. Donc comment ça se fait que on fait des suppositions qui vont amener à le condamner à mort. Donc ça, c'est la première version de l'explication d'Abaye de la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ika de Amré, il y a une autre version qui dit, certains disent, Amar Abaye, Abaye a dit que chez Timtse Lomar, si tu approfondis, tu arriveras à la conclusion suivante, les divrei Rabbi Meir Adam Toé Machéou, que d'après Rabbi Meir, il peut y avoir une erreur d'horaire de Machéou, une erreur infime. Les divrei Rabbi Yehuda Adam Toé Sha'av Machéou. Alors que d'après Rabbi Yehuda, on peut faire une erreur d'un peu plus d'une heure. Comment ça? Les divrei Rabbi Meir Adam Toé Machéou. D'après Rabbi Meir, l'erreur possible, c'est d'un Machéou. Un petit peu. C'est quoi? Maase kiava o besof shtaim ava o betriat shalosh. Et on dit que le meurtre a eu lieu soit à la fin de la deuxième heure, soit au début de la troisième. Donc, soit un peu avant 2 heures, soit un peu après 2 heures. Vechad minayou toé Machéou. Et donc un des deux se trompe d'un machéou. Donc c'est-à-dire celui qui dit 2 heures, pardon, celui qui dit 2 heures, alors que c'était au début de la troisième heure, il s'est trompé de machéou. Et l'autre qui a dit 3 heures, lui, il dit juste. Ou alors le contraire, c'était à la fin de la deuxième heure. Et donc celui qui dit au début de la troisième heure, il se trompe d'un machéou. C'est un petit peu après, c'est quelques minutes après. Alors que celui qui dit à la deuxième heure, c'est la fin de la deuxième heure, donc il a raison. Les divrei Rabbi Yehuda, Adam Toé Sha'av Machéou. Alors que d'après Rabbi Yehuda, l'erreur, la marge d'erreur possible est d'une heure et un petit peu. Donc un peu plus qu'une heure. Et comment ça? Maase kiava obesan shalosh obitriat chamesh. On va supposer que le meurtre a eu lieu soit à la fin de la troisième heure, soit au début de la cinquième heure. Donc il y a un peu plus d'une heure d'écart entre les deux possibilités. Soit à la fin de la troisième heure, donc avant 3 heures, soit au début de la cinquième heure, c'est-à-dire juste après 4 heures. Vechad minayu ou katae shaou machéou. Et un des deux se trompe d'un peu plus d'une heure. C'est-à-dire que si effectivement le meurtre a eu lieu à la fin de la troisième heure, donc celui qui dit la cinquième heure, donc c'est un peu plus d'une heure plus tard, après le véritable horaire. Ou alors au contraire, si le meurtre a eu lieu au début de la cinquième heure, celui qui dit troisième heure, ça veut dire à la fin de la troisième heure, donc il a avancé de un peu plus d'une heure.